Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Duchamp au micro. Je vous parle ce 7 juin, lendemain de la troisième partie de la finale de la Coupe Stanley. Victoire des Golden Knights hier en deuxième prolongation dans un match qui... Ben écoutez, comme le reste de la série, là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? On s'attendait à une série défensive, surtout les Hurricanes, du système... C'est pas du tout ça qui se passe jusqu'à présent, mais ça donne des matchs pas mal excitants jusqu'à présent. On va en parler aujourd'hui avec mes collègues Guillaume Lepage. Salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont. Salut JF.
Salut Nick.
Tout le temps de la misère avec ton nom. Excuse-moi, on dirait que c'est
pas facile. Jean-François
Chaumont.
Jean-François, ouais, dans les années 80, c'est pas assez commun, donc je comprends que c'est pas difficile.
De toute façon, ça vire à Chaumont assez vite. Quand on se met à jaser. Les gars, vous êtes du côté de Vegas à la suite de ce match. On peut lire tous vos textes sur LNH.com ce matin après ce match-là. On va pouvoir lire aussi ce qui s'est passé dans aujourd'hui, hein, parce que là, Jeff, tu t'en vas rencontrer John Tortorella, entre autres. Les gars, vous avez écrit tout ça, donc on peut lire.
On rencontre les entraîneurs de notre chambre d'hôtel aujourd'hui, Nick.
Par Zoom.
Ça, Zoom.
Journée de Zoom, parce que c'est la première de deux journées entre les deux matchs. Donc, on prend ça tranquille du côté des équipes et c'est une bonne chose pour les journalistes aussi.
Oui, bien, en espérant que la connexion soit meilleure que ce que nous, on a eu pour essayer de produire ce balado, parce que ça n'a pas été simple, mais on est là aujourd'hui pour vous jaser. Les gars, avant de se lancer, je disais que vos textes sont sur lnh.com, les gens aussi qui veulent parler espoir, tout ça, ben vous pouvez aussi aller sur le site. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur la science d'évaluation des espoirs de la Ligue qui était cette semaine du côté de Buffalo. J'étais là avec le collègue Sébastien Deschambault. On a un balado aussi qui est disponible. On a parlé avec Xavier Villeneuve, Maddox Dagenais et Liam Lefebvre, là, les trois des très bons espoirs de la Ligue qui nous ont parlé de comment ils ont vécu ça. Et on avait aussi le dépistage Jean-François Danfousse, donc qui vraiment nous a tracé un portrait des espoirs de la LHJMQ. Et on a un autre balado qui s'en vient prochainement qui va vraiment être aperçu du repêchage. On va sortir ça probablement après la fin de la finale de la Coupe Stanley, là, qui, je ne sais pas, ça pourrait être long, ça pourrait être court. Cool, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là.
Pour être long.
Ça. Ouais. ma prédiction en 4, ça prolongeait un peu trop à mon goût, mais c'est pas grave. On a, honnêtement, ce sont des très bons matchs. Hier, en première période, si nous avait posé la question au premier entraque, probablement qu'on aurait dit que c'était un des pires matchs qu'on avait vu, mais finalement, bon, l'histoire s'est écrite en deuxième et en troisième. Là, ça a vraiment été tout un spectacle.
But chez Théodore. But gagnant en deuxième prolongation. Les gars, y avez-vous juste demandé, est-ce qu'ils voulaient vraiment faire ça ou c'était un hasard?
Non. C'est un tir sur réception, passe de Brennan McNabb. Peut-être que des fois, tu veux rater la cible pour créer du chaos, là, un mot populaire avec Martin Saint-Louis, mais là, non, je pense qu'il vise le filet. Il le disait aussi en conférence de presse, il était assis à côté de Mitch Marner que c'était planifié, mais après ça, il part à rire. C'est quand même un joueur qui avait joué 39 minutes hier, le patineur le plus utilisé dans les deux équipes. Théodore connaît une très bonne finale, mais je trouve que c'est un but qui illustrait parfaitement ce match-là. C'est un match qui était rocambolesque, qui était fou. Les Golden Knights menaient 4-0, perdent une avance de 4 buts. Ça, c'était une première dans l'histoire. Pas une première. C'est la deuxième fois que ça arrive dans la finale de la Coupe Stanley qu'une équipe remonte un retard de 4 buts sans être capable d'obtenir la victoire. Mitch Marner qui a eu une période tout simplement de génie, là, 3 buts, une passe pour l'ancien des Maple Leafs. Puis il fallait que ce soit un but tout croche qui... un but en prolongation, en deuxième période de prolongation qui met le point d'exclamation à ce match-là. Mais c'était beau aussi de voir Brendan McNabb qui obtient une passe sur le but gagnant. McNabb, fracture à un nez, probablement d'autres choses aussi, des cicatrices tout partout, des points de suture, qui joue 35 minutes. Puis après le match, il disait qu'il y avait de la misère quand même à respirer. Ça reste le nez, c'est assez important pour respirer. Jouer avec une cage à poules une première fois depuis, selon lui, l'âge de 15 ans, donc depuis 20 ans. McNabb en a 35 aujourd'hui. Puis il a joué tout un match de hockey pour un gars qui avait passé quelques heures à l'hôpital après le deuxième match. Question de guérir cette blessure à un nez.
Ils sont pas normaux, là, on s'entend?
Non, ça défie parfois la logique là, de le voir en uniforme. Puis en plus, le match venait vite. Là. C'était simplement une journée de voyagement et boum, on jouait le troisième match du côté de Vegas. Et c'était une rondelle, un tir frappé 87,3 milles à l'heure en pleine poire, le tir de Nikolaj Ehlers. De le revoir en action le match suivant, tout le monde dans le vestiaire des Golden Knights, là, le mot guerrier revenait sur les lèvres de Jack Eichel. Jérémy Lauzon a dit que c'était un animal. Jérémy Lauzon, lui, quand il est sorti du centre d'entraînement, a téléphoné sa conjointe pour lui dire « Je pense que Naber, c'est son surnom, je pense que Naber va jouer. » Il dit « Ça me fait drôlement penser à Zdeno Chara en 2019 avec les Bruins de Boston. » À cette époque-là, Jérémy était un réserviste chez les Bruins de Boston. Il avait vu le grand Chara revenir en finale de la Coupe Stanley avec une fracture de la mâchoire. Puis malgré tout, il était en une forme. Donc, les athlètes qui poussent les limites afin de continuer à jouer.
Oui, il y en a quelques-uns, là, d'ailleurs, soyons francs. Là, tu regardes au banc, tu vois, c'est la finale de la Coupe Stanley, puis ça paraît. Les gars, ce match-là, bon, une autre montée, un autre changement drastique de rythme dans ce match-là. Êtes-vous juste surpris de la façon que cette série-là tourne présentement alors que c'est pas du tout le style des Hurricanes? Est-ce que les Golden Knights font un excellent travail pour pousser les Hurricanes dans les câbles? Puis après ça, ben écoute, on n'a pas le choix d'ouvrir la machine.
Peut-être, mais hier, honnêtement, je m'expliquais très mal la deuxième période des Hurricanes. On dirait que ça s'est mis à débouler d'une façon incontrôlable. Il y avait vraiment des erreurs de concentration flagrantes, des erreurs qu'on n'a pas vu les Hurricanes commettre là, depuis le début des séries. Fait que j'imagine que c'est causé par justement la vitesse puis la façon de jouer des Golden Knights, mais je pense que c'était très peu. Probablement qu'aujourd'hui, on va parler à Rod Brind'Amour. Sa vision des choses, ça risque d'être le fait que ce sont des erreurs qui se sont infligées à eux-mêmes. Là. Des revirements, des surnombres, c'était difficile à contrôler. Puis on dirait que la machine part d'un côté comme de l'autre, parce qu'en troisième, c'est le scénario inverse qui s'est produit. Et on dirait que l'autre équipe a de la misère à gérer les changements de rythme et de momentum. Oui, surpris, parce que tu te dis, bon, ça va être une série. Ben, c'est une série serrée, mais pas serrée comme on s'attendait. Là. Je veux dire, tu regardes les scores, ce sont des scores très, très serrés, deux prolongations, mais pendant un match, il y a des séquences où c'est vraiment, on dirait que c'est complètement injuste là, qu'une équipe domine l'autre à outrance et tout ça. Fait que je peux pas dire que c'est ça à quoi je m'attendais, mais. Pour vrai, il y a plusieurs collègues qui le disent, c'est un des très, très bons spectacles qu'on a depuis des années en finale. Puis disons qu'on est entré dans cette finale-là en se disant, l'intérêt est peut-être un peu moindre, on a un petit marché en Caroline, les Golden Knights, c'est pas l'équipe favorite à travers la LNH, là, donc
non,
je penserais pas. Mais pourtant, tu sais, ça donne du très bon hockey. Là. Même si tu n'es pas un fan d'une équipe ou de l'autre, tu peux ouvrir ta télévision et tu vas être diverti là, par cette finale-là.
Ça reste difficile quand même à décortiquer parce que si tu regardes la première période du troisième match des Hurricanes, c'était pas mal. L'ABC des Hurricanes de la Caroline. Ils ont dominé les Golden Knights. Seulement deux tirs du côté de Vegas en 20 minutes. Puis en deuxième, ça devient, comme Guillaume le disait, tout croche avec des revirements. Mais parfois, tu as besoin d'un gardien aussi qui bloque des rondelles. Il y a eu deux buts refusés avant l'avalanche de quatre buts d'affilée. Le premier, c'était Mark Stone qui marque, mais Brett Hawden était hors-jeu. Le deuxième, c'est Jack Eichel qui marque, mais Ivan Barbashev frappe au passage Anderson à la tête. On refuse logiquement le but. Mais après ça, c'est quatre buts. Les Hurricanes, je trouvais, redevenaient un petit peu les Hurricanes à partir du moment où il y a eu le changement de gardien. Tu as eu Brandon Bossy qui est arrivé devant le filet. Ça a stabilisé, ça a calmé un peu tout le monde. Puis je trouve ça quand même ironique. Hier, en conférence de presse, John Tortorella, qui après une victoire, regagne l'usage de la parole. Ça, c'est toujours intéressant. Une conférence de presse de 9 minutes pour Torts après une victoire. Tortorella disait que quand il y a eu le lancer de punition...
Comme s'il choisissait ses moments.
Oui, mais il est capable. Là. Quand il y a eu le tir de punition pour Mitch Marner, vers la cinquième minute environ, en troisième période, Bossy, à ce moment-là, avait effectué seulement un arrêt. Puis Tortorella, derrière le banc, se disait, on a besoin de ce but-là. On a besoin d'un cinquième but pour porter le pointage à 5-0. Je sais pas s'il sentait venir ce qu'on a vu dans les prochaines minutes, mais c'est un signe aussi qu'il n'y a aucune avance en ce moment de... de sécuritaire dans cette finale de la Coupe cette année-là.
4-0, je pense qu'on peut dire que c'est la pire avance au hockey.
Ben, on croyait que c'était 3, maintenant c'est rendu 4, mais là, il y a
ça
eu...
Ça peut être 2, 3 ou 4 là, dans deux, cette série-là.
C'est 3 buts en 39 secondes pour les Hurricanes. Ça, c'est un record pour une finale de la Coupe Stanley. Puis on reçoit des statistiques de la Ligue nationale qui sont mises à jour pendant le match là, en temps réel. C'est un collègue, le Brandon, qui s'occupe de cette page-là. Puis la page hier du match... Je pense que c'est 3 pages ou 4 pages de documents Word, tellement il y a de nouveaux comme records qui venaient de tomber dans cette troisième rencontre-là. À commencer par Marner, qui a 4 points dans une période. Marner, un tour du chapeau, bat un record de Maurice Richard qui datait de 69 ans. Là, il a marqué ses 3 buts en 6 minutes et des poussières. C'est le tour du chapeau naturel le plus rapide de l'histoire d'une finale. C'était le fun, c'était divertissant. Mais tôt ou tard, je crois qu'on va revenir à une game plate de 2-1 ou 3-2 avec du jeu plus serré que ce qu'on voit dans les matchs 2 et 3.
Oui, mais c'est ça qu'on s'était dit après le premier match. Oui. C'est toujours pas arrivé. On dirait que quand tu piles une peau de banane, là, ça se met à glisser. Là. On dirait que les deux équipes, il y a des bananes, on se croirait à Mario Kart, peu importe. Là, mais quand ça se met à glisser, ça se met vraiment à glisser. Puis c'est pas long. Puis on l'a vu hier, là, ça n'a pas été long, là, les remontées. Là, c'est l'explosion en deuxième période, c'est l'affaire de quoi? 4-5 minutes.
Ben Marner, c'est
encore pire
minutes,
en troisième. Là.
Ouais.
Et pourtant, tu as une équipe expérimentée d'un côté, les Golden Knights. Je pense qu'il y a 12 joueurs qui ont gagné la Coupe en 2023. C'est supposé être des situations dans lesquelles tu es confortable, sous haute pression, tu sais comment gérer. Tu encaisses un but, c'est 4-1. On relaxe, puis on repart la machine. Là, hier, 3 buts en 39 secondes, ça a juste pas de sens. Puis, tu sais, je me souviens, JF, après le premier but, je t'ai dit, bon, la remontée commence. C'était très, très ironique parce qu'il se passait absolument rien du côté des Hurricanes. Puis, une minute plus tard, en temps réel, probablement, on était rendu à 4-3. Fait que ça me surprend parce que l'expérience, ces équipes-là, tu sais, les Hurricanes n'ont pas atteint la finale, mais c'est une équipe qui a eu des longs parcours, qui est supposée savoir comment gérer ces moments-là, gérer la pression. Puis on dirait qu'on oublie tout ça. Là, dès qu'il y a un but qui est marqué, on devient nerveux, puis ça déboule vraiment. Mais je peux voir un changement survenir dans le prochain match si les Hurricanes y vont avec Brandon Bossy. Honnêtement, c'est une période, là, deux périodes et quelques minutes en deuxième prolongation. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé ce que j'ai vu de Bossy. La différence est flagrante. C'est un gardien qui est en confiance, qui était solide devant son filet. Depuis 2 matchs, honnêtement, Frédéric Anderson... C'est pas seulement les statistiques, là, parce que là, Rod Brind'Amour dit souvent « Ah, ben le taux d'efficacité avec notre équipe, c'est pas vraiment fidèle à la réalité parce qu'on donne pas beaucoup de tirs. Donc, dès que tu donnes un but, ben c'est un taux d'efficacité qui est bas. » Mais depuis 2 matchs, là, Frédéric Anderson se bat sur chaque lancer, a de la difficulté à voir la rondelle. Les jeux transversaux, c'est un but presque assuré si les Golden Knights touchent la cible. Fait que pour moi, c'est inévitable. Là. Ce changement-là doit survenir maintenant parce que les Hurricanes, avec Anderson, on dirait que sont peut-être plus hésitants un peu. Là. Tu sais, tu veux pas faire d'erreur parce que tu sais que ton gardien est un petit peu croche. On a vu une équipe beaucoup plus en confiance quand Bossy est arrivé dans le match en troisième période. Puis l'arrêt sur Marner, je pense que ça a relancé les troupes un peu. Là. Ça a donné confiance un peu. Puis on est allé répliquer. Là. 3 minutes plus tard, je pense qu'on a marqué le premier but. Donc, c'est le signe que le changement est peut-être nécessaire rendu à ce point-ci.
Et Guillaume l'avait remarqué pendant le match. Là, après le troisième but de Mitch Marner, Rod Brind'Amour n'a pas changé son gardien immédiatement, mais il s'est déplacé derrière le banc pour aller vers le corridor où Brandon Bossy est assis. Puis tu vois clairement qu'il lui parlait, donc il lui disait « Prépare-toi mentalement, tu vas embarquer pour le début de la troisième période. » Puis de la façon qu'il a joué dans ce match-là, dans le match numéro 3, je trouve qu'il n'y a aucun doute qu'il mérite le prochain départ. Anderson, c'est une belle histoire. Il y a eu des chiffres hallucinant contre les Sénateurs, contre les Flyers, mais ça fait longtemps, le premier et le deuxième tour. Même contre Montréal, qui finissait les matchs avec 12 tirs, 15 tirs, quand c'était un bon match du côté du CH, on sentait Frédéric Anderson chancelant, atteignable. Puis c'est la même histoire depuis la finale de la Coupe, depuis le début de la finale. Donc, un départ pour Brendan Bossy pourrait changer un petit peu, amener un élément nouveau, un élan aux Hurricanes. Mais même de l'autre côté, là, Carter Hart n'est pas magique non plus, là, loin de là. Ça fait deux matchs d'affilée que Hart, après deux périodes où il donne aucun but, en troisième période, il se fait déjouer trois fois sur trois tirs.
Quand ça compte en plus, là.
Oui, là, quand tu veux ouvrir la porte à une remontée, t'as ton gardien numéro un qui ne réussit pas les gros arrêts. Donc, c'est pas une série de gardiens de but pour l'instant, cette finale de la Coupe Stanley.
Pour ce qui est de Bossy, là, j'écoutais hier Rod Brind'Amour quand il parlait, puis il a dit je voyais pas de raison de laisser Frédéric dans le match à ce moment-là. Puis ça me fait dire je vais le ramener au prochain.
Oui, mais là, le match s'est prolongé, le match a été long. Celui qui est venu jouer le rôle de second t'a permis de survivre jusqu'à la deuxième période de prolongation.
OK. Donc, si les Hurricanes perdent à la régulière, marquent juste un but en troisième période, est-ce qu'Anderson est là dans le prochain match?
C'est plus facile, je pense, de revenir qu'Anderson.
C'est plus facile.
Peut-être, okay. Parce que là tu sais, Bossy a vu du volume quand même, 18 tirs avant de céder là, sur le rebond de la bande en deuxième prolongation. Fait que ça permet aussi à l'entraîneur de voir.
Je vais dire, il y a même un but dans ce match-là, Bossy.
Oui, avec sa jambière ou son patin.
Non, puis tu sais, en prolongation, je me souviens d'une séquence, deux tirs sur réception du haut des cercles de Carson, de Howden, en l'espace de quoi, 15-20 secondes. Des arrêts de la jambière très, très importants. C'est un gardien qui est agressif. Puis il faut pas oublier que pendant la saison, là, c'est lui qui a signé, pense, c'est combien de victoires? Je ne l'ai pas sous
37,
les yeux, là, mais je pense
que c'est
39 victoires ou quelque chose comme ça.
Je te donne ça dans deux secondes, là, mais ça commence par trois. Ça, j'en suis certain.
Fait que tu sais, c'est pas comme si c'était un gardien réserviste qui a pas. Non. C'est ça.
Excuse-moi, 31 en 39 matchs.
Puis Anderson, je pense, avait 16 victoires, quelque chose comme ça. Donc, à peu près la moitié. Donc, c'est pas un gardien qui a pas vu d'action de la saison, qui arrive de nulle part en série. Puis là, tu te dis, bon, on va l'essayer parce qu'il est dans une bonne passe. Tu sais, il a fait ses preuves en saison régulière. Anderson a pris le relais en série, puis il est parti sur une belle lancée dans les deux premiers tours. Mais là, je pense que c'est le temps de revenir à celui qui a eu la pole pendant la majeure partie de la saison. Puis il t'a prouvé que même, écoute, il n'avait pas été devant le filet depuis le 14 avril, je pense, son dernier match. Presque deux mois d'inactivité, puis il arrive dans ce match-là, il avait l'air d'un gardien prêt. Puis, tu sais, il l'a dit après le match, je me suis entraîné fort et tout ça. Tu sais, c'est beau, là, les joueurs disent tout le temps ça, mais là, tu te retrouves jeté dans la gueule du loup, dans un environnement hostile. En finale de la Coupe cette année, c'est un match numéro 3 que ton équipe peut pas vraiment échapper. On connaît l'importance des troisièmes matchs. La situation était pas facile, puis il a répondu. Fait que juste pour ça, je me dis, si t'es Rod Brind'Amour, c'est sûr que ça te trotte dans la tête. Pour les deux prochains jours, t'as deux jours pour y penser. Honnêtement, je peux pas voir un raisonnement qui mène à Frédéric Anderson au prochain match parce que depuis le début de la finale, je pense que c'est 4,44 de moyenne, 815 d'efficacité. Tu peux pas gagner la Coupe Stanley avec un gardien qui a ces chiffres-là. Donc, pour ma part, c'est inévitable. Là, on doit changer la recette du côté des Hurricanes.
Bravo, tu avais les bonnes statistiques, Guillaume.
Oui, je viens de les regarder.
OK, parfait. Je les avais moi aussi. Mais puis, aussi de la façon qu'il est entré dans le match, tu peux pas entrer de façon plus, tu sais, quand on dit là, gauler sur l'adrénaline, là, parce qu'il a jamais joué en séries éliminatoires. Il entre dans un match où il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas d'expérience. Soudainement, tu te fais. Ton équipe commence à marquer. T'arrêtes Mitch Marner sur un tir de pénalité. Ce qu'il a fait hier, c'était vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas s'il va être capable d'amener ça au prochain match. Parce qu'effectivement, Bossy, cette année, signait beaucoup de victoires, mais des fois, c'était parce que c'était ce qui se passait en avant de lui qui faisait qu'il signait des victoires. Donc, faudra voir. Mais oui, il n'y a absolument pas d'expérience. Quand tu dis que dans cette équipe-là, c'est le gardien avec le moins d'expérience, en rajoutant Kochetkov aussi, faudra voir. F- faudra voir. Ça va être un deux gros jours de réflexion.
Cam Ward en 2006 n'avait pas plus d'expérience. Hein?
Non.
On peut puiser dans l'histoire non, mais chez les Hurricanes.
Est-ce que Cam Ward est un choix de première ronde? Vous avez bossé, je vais m'interpêcher. Mais bon, c'est les gardiens modernes. De toute façon, là, des fois, il y en a un qui sort à partir de nulle part puis qui connaît Jacob Debèche cette année en est un. Là, un exemple de gardien qui n'était pas vu comme un grand numéro un puis que tout tombe en place. Donc. Mais ça va être un deux jours de réflexion, j'ai l'impression, pour Rod Brind'Amo. Les gars, Mitch Marner, je veux dire, peu importe ce qui arrive dans cette série-là, est-ce qu'il est assuré de gagner Conn Smythe à partir de maintenant?
Assuré?
Qui pourrait lui voler ça?
L'équipe, ça devenait un retour des Hurricanes. Les Hurricanes gagnent la Coupe Stanley pour que l'équipe adverse sorte avec le vainqueur. Ça arrive quand même moins souvent dans l'histoire. Mais là, il est rendu à quoi? Il y a 28 points. Mitch Marner vient de battre le record d'équipe des Golden Knights qui était de 26 points pour Jack Eichel en 2023, année de la conquête de la Coupe Stanley des Golden Knights. Il y a 10 buts, 18 passes. Depuis le début de la finale de la Coupe Stanley, c'est lui également qui mène pour le nombre de points. Marner est clairement le moteur offensif, mais quand tu parles aux coéquipiers, quand tu parles à John Tortorella, chaque fois ils vont dire Marner est aussi bon défensivement. On le voyait aussi à Toronto avec les Maple Leafs. C'est juste qu'en série, Marner et son groupe ne parvenaient pas à être aussi dominants qu'ils l'étaient en saison. Mais ça, il faut toujours se rappeler aussi, c'était quoi la profondeur du côté des Maple Leafs de Toronto? Il y a des années que c'était pratiquement inexistant. Tandis que du côté des Golden Knights, il y a de la profondeur. Tu peux rouler 4 trios. Tu as d'autres joueurs qui peuvent prendre le relais. En ce moment, oui, c'est lui le gagnant du Conn Smythe, mais je garde quand même un petit pied sur le frein, étant donné que la série n'est pas finie.
Ça prendrait tout un revirement dans les prochains matchs d'un joueur des Hurricanes.
Ils ont joué moins de matchs en partant, donc ça, les chiffres sont moins impressionnants, mais Logan Stenkoven a quand même... Les matchs que les Hurricanes gagnent, je trouve que Stenkoven, c'est souvent le cheval, celui qui va guider l'équipe. Mais c'est vrai que c'est mieux réparti du côté des Hurricanes.
Il y a 14 points, mais Marner en a 28. Oh, oui. Je sais qu'il y a 3 matchs de différence, mais je vois pas un scénario où Marner gagne pas le Conn Smythe, peu importe. Mais... Ça se peut, là, c'est pas impossible. Là. Mais.
Ouais, mais c'est parce que chez les Hurricanes, c'est plus c'est une histoire d'équipe plus que d'un joueur. Là. Fait que c'est sûr que ce serait difficile à départager. Puis, tu sais, Taylor Hall, oui, a connu un départ canon. Je pense qu'avant la série contre les Canadiens, il était déjà rendu à quoi, 11 points, quelque chose comme ça. J'avais écrit sur ce trio-là qui était en feu. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, c'est un petit peu plus tranquille de son côté. Fait que. Je suis quand même d'accord avec toi, ça va être difficile de déloger Mitch Marner, peu importe quelle équipe remporte cette finale-là.
Et c'est le joueur le plus utile à son équipe en plus. Donc, Marner, il joue en désavantage numérique, il joue partout. Mm-hmm. C'est sûr qu'à Toronto, présentement, je sais que lui, il ne veut pas en parler, là, mais je lisais votre texte hier, puis vous l'avez encore souligné au gros crayon que c'est l'ancienne vedette des Maple Leafs de Toronto. JF, tes paroles, ça, c'était
l'ancienne gloire des Maple Leafs. Oh, oui,
l'ancienne gloire des Maple Leafs.
T'as pas le choix de le
voir. J'ai juste savoir, Jeff, vu que c'est toi qui écrivais l'analyse hier, t'avais combien de mots d'écrit avant de lancer ton laptop au-dessus de la galerie de presse parce que fallait tout recommencer à cause de la 39 secondes?
À part les petits points en prolongation, on a maintenant la sagesse d'attendre la fin du match. Puis ça reste payant. Mais tu sais, là, je regarde une statistique. Mitch Marner avait 13 buts en série en 70 matchs avec les Maple Leafs. Là, il y en a 10 en quoi? En 19 matchs avec les Golden Knights?
Exactement, oui. 10 en 19.
10 en 19. Donc, son ratio de buts par match est légèrement plus élevé du côté de Vegas.
C'est incroyable. Non, mais je veux dire, Puis tu sais, t'as raison. C'est oui, il est mieux entouré. Oui. Mais à un moment donné, il a élevé son niveau de jeu.
Oui, mais peut-être qu'à Toronto...
Il y a une croustille sur l'épaule. Là,
ça, il n'y a aucun doute. Il a souvent porté le blâme pour les éliminations hâtives des Maple Leafs. Les partisans pouvaient être difficiles envers Mitch Marner. C'est un petit gars qui est originaire de Toronto aussi. Ça peut apporter une pression additionnelle. C'est un joueur de la place. Mais des fois, il faut que tu regardes à gauche puis tu regardes à droite. Est-ce que Austin Matthews était tant meilleur que Mitch Marner, est-ce que William Nylander avait le cran pour être un joueur des séries? Tu peux parfois te poser des questions. On a peut-être choisi encercler comme victime Mitch Marner, mais est-ce que c'était la... Est-ce que le bonnet d'âne revenait à Mitch Marner? On peut se poser des questions. Austin Matthews, dans les grands moments, oui, il était le capitaine de l'équipe américaine aux Jeux olympiques, mais c'est pas lui qui a transporté son équipe, donc...
C'est pas comme si les États-Unis avaient dominé la finale.
Non plus. Puis disons que, tu sais, Marner, en ce moment, prouve qu'il est un joueur étoile en saison, qu'il est un joueur étoile en série. Il le fait à sa première saison avec les Golden Knights. Tant mieux pour lui. C'est une belle histoire, Mitch Marner, à Vegas.
C'est une discussion que j'ai eue cette semaine avec Gavin McKenna, justement, à Buffalo. Puis on a parlé de la pression du marché torontois. Puis il dit, ben écoute, avec ce que j'ai vécu cette année, puis c'est vrai, Guillaume, tu le sais, là, McKenna, en allant dans la NCAA, était un peu, entre guillemets, là, c'est pas ce que je pense, là, mais le traître, le premier traître qui lâchait la LCH pour aller aux États-Unis. Puis là, ce qu'il m'a dit, c'est non, mais le marché de Toronto, je viens de vivre quelque chose cette année. C'est pas pareil, mais je pense que ça m'a très préparé pour ce que ça va être le marché de Toronto. Me disait comme, non.
Je pense que
c'est plate, mais non.
Quelques coches supplémentaires parce que McKenna n'avait pas à répondre aux questions des journalistes à chaque jour. Puis, il n'y avait pas des émissions de radio consacrées à son inefficacité à tous les jours non plus. Là. Fait que c'est une bête différente, mais au niveau où il est en ce moment, là, un jeune de 17-18 ans, ce qu'il a vécu, c'est vrai que c'est plus de pression que la normale des jeunes joueurs.
Ben,
c'est sûr que ça va le préparer, mais il faut qu'il soit prêt à en avoir plus. Et ça, c'est si les Maple Leafs optent pour Gavin McKenna.
Oui, bien évidemment. Moi, mon idée est arrêtée. Là, mais c'est vrai, par contre, il y a raison. Des premiers choix qui ont fait face à une tempête comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup dans les dernières années. Je veux dire, Connor Bedard, c'était clair. McLean Celebrini, c'est correct, c'était une bonne saison à BU. Lui, ça a été plus difficile dans tous les sens. Même quand, au championnat du monde, le Canada perd, ben là, c'était lui la cible. J'ai discuté aussi avec Mark Leach, le directeur du dépistage amateur, puis on lui a posé la question, comment vous évaluez si un joueur est capable de vivre dans la marmite de Toronto, là? Sa réponse a dit, ben tu sais, les joueurs aujourd'hui, il y a de la pression partout, ils font des gros salaires, ils sont devant les caméras partout. Peu importe le joueur, c'est la même réalité. Oh, la belle réponse de politicien, là, parce que non, ça sera pas la même réalité si Gavin McKenna s'en va à Toronto. Mais hey, honnêtement, je vais me plugger, là, mais c'est un texte que j'ai apprécié écrire. Je vais pas dire un bon texte, mais un texte que j'ai apprécié écrire sur McKenna. On a parlé de ses racines autochtones, tout ça, puis comment il vit ça, puis cette réalité-là aussi, parce que c'est pas la même culture. Puis la réalité, c'est de passer de Whitehorse à Toronto. Bon défi, donc tout ça. Donc, on verra bien pour McKenna, on verra bien pour Marner aussi si ce qu'on avance va se concrétiser avec le Conn Smythe. Pause de deux jours.
Je voulais revenir sur la finale. Petit dossier à surveiller, William Carrier du côté des Hurricanes.
Ben c'est ça. Tu me voles, j'allais dire pause de deux jours. Quelle équipe peut le plus en profiter selon vous?
Les Hurricanes peut-être vont apprécier avoir deux jours pour voir si William Carrier va pouvoir être de retour en uniforme. Il a quitté le match en deuxième période, là, s'est blessé à la suite d'une énième mise en échec à l'endroit de son compatriote Jérémy Lauzon. Honnêtement, les deux se livrent une solide guerre là, au niveau des mises en échec.
Est-ce qu'il y a moyen de trouver les statistiques? Qui frappe le plus qui?
Je pense que Carrier a l'avantage là-dessus parce que Lauzon est souvent celui qui récupère la rondelle derrière son filet. Carrier est en échec avant, fait que ça c'est souvent le cas, mais Lauzon a pincé Carrier à quelques occasions aussi. Puis, tu sais, les statistiques de mise en échec, honnêtement, hier, on avait le doigt pesant là, du côté de Vegas, un peu moins pour la Caroline. Fait que faut en prendre et en laisser. On a regardé, je pense, en première période, on avait vu clairement deux mises en échec de Carrier sur Lauzon. Sur la feuille, il y en avait seulement une. Fait que faut en prendre et en laisser. Mais non, ça, c'est Carrier s'est blessé au coude gauche, je crois, pendant la... pendant la, sur une mise en échec, puis il a quitté le match après avoir fait une grosse gaffe là, sur le deuxième but.
Il a quitté le match en première période, comme les cinq dernières minutes de la première période, il n'a pas joué. Il est revenu en deuxième, puis c'est ça, Guillaume, comme tu le mentionnes, c'est lui qui est victime d'un revirement sur le deuxième but de Mitch Marner. Braden McNabb coupe la passe, repère Mitch Marner qui marque. Puis après ça, on n'a pas revu William Carrier. Puis moi, j'ai parlé avec Jérémy Lauzon après le match. Puis je lui ai demandé est-ce que tu as senti quoi que ce soit quand il t'a frappé? Puis Lauzon disait qu'il n'avait même pas remarqué que Carrier n'avait pas fini le match. Mais ce qu'il a remarqué, par contre, c'est que dès qu'il y a une chance...
Ça faisait moins mal.
Ça, normalement, un joueur capable de voir qu'au sein du quatrième trio, il y a toujours un nouvel ailier. Mais c'est peut-être sa façon de dire qu'il s'en souciait peu. Mais ce qu'il remarque, par contre, c'est que dès qu'il y a une chance, William frappe Jérémy. Il dit, il me donne aucun break sur la glace. Il dit ça, il dit, mes coéquipiers m'avaient averti. Carrie a quand même joué longtemps avec les Golden Knights. Comme quoi, c'est un joueur que tu dois surveiller. Tu dois garder la tête haute. Lauzon disait que ça lui ressemble également. Donc, c'est deux joueurs avec une identité semblable qui aiment y aller pour de grosses mises en échec. Mais même si on parle de deux Québécois, Jérémy vient de Val-d'Or, puis il disait, moi, je le connais pas. J'ai jamais rencontré William. Et dit, l'été, je retourne à Val-d'Or. Donc, je connais les Québécois de ma génération, ceux contre qui il a joué dans la JMQ. Mais dit les plus vieux ou les plus jeunes, bien, en retournant à Val-d'Or, ils se coupent un petit peu de croiser d'autres Québécois l'été.
Mais ce serait, tu sais, c'est un joueur de profondeur, William Carrier, là, mais ce serait
une
solide perte pour les Hurricanes. C'est lui qui mène l'équipe pour les mises en échec par tranche de 60 minutes aussi. Il frappe tout ce qui bouge. Le quatrième trio est très, très efficace grâce beaucoup à lui. Là, tu sais, Jankowski et Robinson en profitent beaucoup, mais c'est lui qui donne le ton sur ce trio-là. Donc, ce serait quand même une grosse perte pour les Hurricanes. Là, ça pourrait signifier aussi l'entrée en scène de Nicolas Deslauriers. Si on veut remplacer Carrier, c'est assez clair qu'on va y aller pour Deslauriers et non pour Jesperi Kotkaniemi. Là, sans rien lui enlever, je pense pas que c'est un joueur qui est l'identité d'un quatrième trio. Donc, on pourrait échanger un Québécois pour un autre chez les Hurricanes, mais je suis pas mal convaincu que Rod Brind'Amour se croise les doigts pour que Carrier soit à son poste là, pour le prochain match.
Oui, il n'y a pas de mise à jour à faire après le match. Tu as demandé, d'ailleurs.
Non, pas de mise à jour. Puis, tu sais, les Hurricanes, à partir de la deuxième période, ont dû se débrouiller à 11 attaquants. Là. Quand tu t'en vas en deuxième prolongation, ça commence à tirer du jus, mais j'ai quand même... Aimé, tu sais, on faisait une rotation au niveau des ailiers, c'était jamais vraiment le même trio. Puis même à ça, on a réussi quand même à établir notre rythme. Tu sais, les joueurs des Hurricanes se sont bien adaptés à tout ça. Donc, dossier à suivre pour cette équipe qui doit espérer vraiment que Carrier se porte bien.
On a parlé de Carrier, mais justement, je reviens à ma question. Quelle équipe peut le plus profiter de cette pause de deux jours là où tu as peut-être plus le temps de travailler des choses? Je ne sais pas si on va aller sur la glace, comment on va gérer ça, mais quelle équipe présentement joue le moins selon son identité pourrait en profiter? Vous comprenez ce que je veux dire?
Ben, probablement les Hurricanes. Si tu veux revenir au tableau, y aller d'ajustement. Aujourd'hui, c'est jour de congé sur glace, mais il doit certainement y avoir des rencontres entre les entraîneurs et les joueurs. Demain, il y aura des entraînements fort probablement du côté des deux équipes. Puis on joue le prochain match uniquement mardi. Mais tu sais, on parle de repos. Brendan McNabb, là, qui a le nez tout croche, qui a le visage redessiné, lui aussi ne dira pas non à un repos.
C'est pas une journée de plus qui va changer grand-chose.
Non, mais t'as chez Théodore qui vient de jouer 39 minutes. Le deux jours de pause va être salutaire pour les deux équipes.
Bien, je vais même ajouter, au nombre de matchs, je sais que les Golden Knights n'en ont pas joué une tonne de plus que les Hurricanes, mais on en a quand même joué beaucoup plus que les Hurricanes, donc une journée de plus de repos,
ouais,
là, ça peut aider un petit peu. Là.
Hier, en première période, Jaden Chatfield est retraité au vestiaire. Kendrick Miller a passé une pause publicitaire au complet à faire des étirements de la hanche avec le soigneur à ses côtés. Fait que même si on n'a pas beaucoup joué chez les Hurricanes,
il y a Ivan Barbashev qui a eu le souffle court après une mise en échec.
Taylor Hall s'est fait frapper aussi solidement. Donc, je pense que les deux équipes vont profiter de ces deux jours-là parce que ça commence à tomber un peu des deux côtés. Là. Au niveau blessure, là, c'est pas mal certain que tout le monde va être en uniforme, là, mais peut-être pas à 100%. Probablement pas à 100%.
Série 2-2, série 3-1, quand on termine ce passage à Vegas.
Non, moi, hier, en sortant de l'aréna, dans une belle marche à 34 degrés à 11 heures le soir, j'ai dit à Guillaume 2-2.
2-2?
Oui.
2-2. On m'a répondu quoi, c'est ça?
2-2 si Brendan Bossy est devant le filet. 3-1 si Anderson est j'aime de retour ça. Devant sa cage.
OK, j'aime ça. Parfait. Ouais. Je vais me ranger à vos opinions, messieurs. J'aime le tout. Alors, comme je disais, vous parlez à John Tortorella tantôt, les gens vont pouvoir lire ça sur NH.com. Prochain épisode, on va voir selon comment la finale va se dérouler puis tout ça. Peut-être que c'était notre dernier avant la fin de la finale, sinon on verra, là, mais tout ça. Donc, abonnez-vous, comme je disais, chers auditeurs, suivez-nous pour être certain de ne pas rater un prochain balado. Puis comme je disais aussi, spécial repêchage de la JMQ, portrait de la cuvée pour le repêchage, c'est disponible aussi sur lnh.com, Spotify, peu importe où vous écoutez vos balados. Les gars, je vous laisse partir. Un gros merci pour cette participation en ce dimanche.
Oui, moi je remercie ça mon éclairagiste plaisir. Aussi. Bonne journée!
Ouais, ça, ton éclairagiste, honnêtement, là, va-t'en pas tout de suite, on a des tests à faire.
Non, faut que je m'en aille, j'ai un zoom
à écouter. Parce que les gens qui nous écoutent vidéo présentement, il y a un Batman, je ne sais pas lequel, le gars, il avait la moitié de la face brûlée, puis il était tout rouge. Là.
C'est peut-être le corps de ça derrière moi, je ne sais pas.
Non, ça, c'est peut-être les 2 heures qu'il a passé au soleil hier. C'est
bon non, même pas, là. Hey, écoute, c'était même pas, c'est 24 minutes, le temps que deux paires de bas finissent par sécher. C'était plus l'utilité de la piscine. Ouais. C'est qu'on la veille, on a fait. Tu sais, il y a des moments.
Premier lavage de bain est fait.
Oui, il y a des moments où tu sens que ta vie est glorieuse. Quand tu laves des boxers, des t-shirts, des bas dans un bain d'une chambre d'hôtel, puis le lendemain, tu te réveilles et tu dis hey, ces bas-là, ça ne séchera jamais. la piscine est devenue utile. J'étais le seul idiot à accrocher 4 bas derrière ma chaise à la piscine. Mais il était tôt le matin, donc peu de gens qui ont été témoins de cette scène.
Tu sais, quand tu as de l'air d'être au camping, mais à Vegas.
Oui, ouais, mais c'est pas un type d'hôtel aussi où tu as l'air du gars en camping. Là. C'est un petit peu chic comme hôtel. Et bon.
Personne qui a gagné aux machines?
Pas encore joué.
Pas encore
je retiens Guillaume depuis le début, mais on salue d'ailleurs chaque fois qu'on passe à travers les casinos, on a une pensée pour Gabriel, notre collègue. Je crois sincèrement qu'on perdrait Gabriel si un jour il couvre une finale de la Coupe Stanley. D'ailleurs, le Aria, le premier soir qu'on était à l'hôtel, on a reçu un message comme quoi on cherchait un homme de 75 ans qui était perdu. Si un jour Gab couvre une finale de la Coupe Stanley, les collègues vont recevoir le même message. Je trouve que ça va être un homme de probablement 28-30 ans, jeune moustachu, assez grand, perdu dans un casino de Vegas.
Ça a l'air que c'est le script de Hangover 4.
Oui, exact.
C'est juste Gab qui est perdu dans les machines et qui vient.
On le perd à Montréal, donc à Vegas, pour être dangereux.
C'est parce qu'il aime les lumières. C'est un gars de lumière.
Oui, oui.
Il est attiré par tout ça. Que... Hey, les gars, merci. On le salue. Les oreilles doivent scier en ce moment. Hey, un gros merci, les gars. Chers auditeurs, merci aussi à vous beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Et on se reparle très bientôt.